Chapitre 4e. Les disques de couleur. Le marquis di Carmine et Santucci se tenaient dans un salon où ils recevaient, au nom de la famille du banquier, les amis venant exprimer leurs sentiments de condoléances avant de former le cortège funèbre. Le salon était déjà plein de monde. Le marquis se tenait auprès de la cheminée, tournant le dos aux immenses croisées. Il serrait les mains qui se tendaient vers lui et remerciait par quelques mots. Martin Huma s'avança comme pour aller auprès du marquis, mais il jeta seulement un rapide coup d'œil vers la cheminée, et avec cette souplesse de mouvement remarquable chez lui, il sut faire un crochet, se retirer de la queue des visiteurs et se glisser sans qu'on remarquât sa manœuvre vers un coin du salon. Je le vis alors sortir de sa poche une petite boîte. Dans cette boîte se trouvait un gant noir comme celui qui déjà recouvre sa main gauche. S'abritant bien auprès de moi pour accomplir sa manœuvre, il passa ce gant avec des précautions infinies. Il me précéda et reprit place dans la queue des visiteurs qui se déroulaient devant le marquis. Je vis qu'il tenait sa main droite dans son chapeau comme pour la protéger contre tout contact. Arrivé devant le marquis, il tint son chapeau sous son bras gauche. Il s'inclina, prononçant quelques paroles de circonstance. « Ah, monsieur Martin Huma, lui dit le marquis, combien je vous suis reconnaissant d'être avec nous dans cette douloureuse affaire. Vous nous apporterez, sinon, la consolation, du moins la satisfaction de la vengeance, en jetant dans les juges le misérable qui cause notre deuil. Je m'y emploierai de toutes mes forces. Merci au nom de Madame Castagnier, de sa fille éplorée. Merci en mon nom. » Le marquis tendit la main droite à Martin Huma. Le marquis, selon le protocole mondain, ne portait pas de gants. C'est ce dont tout à l'heure était venu s'assurer le détective. Mon ami s'empara de la main droite qui lui était tendue. Je le vis alors, tout en s'inclinant, ne pas se contenter de serrer la main du marquis, mais encore, contrairement à tout usage, poser sur elle sa main gauche et appuyer fortement, comme pour accentuer sa poignée de main. Donner plus de force à ses paroles, affirmer son engagement, son dévouement. « Je trouverai, dit-il, je trouverai le coupable. » Mais le marquis ne proféra plus un mot. Je le vis pâlir subitement et porter instinctivement les yeux sur la main de Martin Huma en serrant la sienne. Puis, quand Martin Huma lui rendit la liberté de sa main et l'ayant salué, s'éloigna de lui, je vis encore une lueur étrange dans le regard du marquis. Ce fut avec un singulier sourire au coin des lèvres qu'il répondit à mes paroles de condoléances. Je rejoignis Martin Huma. Il s'éloignait, gardant de nouveau sa main droite dans son chapeau à l'abri de toute atteinte. Naturellement, je le suivis, ne voulant pas le laisser échapper, étonnant à connaître la raison, le résultat de cette manœuvre étrange dont rien ne m'avait échappé. Martin Huma descendit rapidement l'escalier que les décorateurs avaient ornementé de tentures funèbres, de plantes vertes. Les deux cercueils se trouvaient dans le vestibule, transformé en chapelle ardente et encombré de fleurs d'énormes couronnes. Martin Huma sortit de la maison, tenant toujours sa main sous le chapeau et se faisant du bras gauche un passage dans la foule qui stationnait devant la maison, sur le trottoir, envahissait la chaussée. Il ouvrit rapidement la portière d'une auto, s'engouffra dans le véhicule, tout en me donnant cependant le temps de sauter derrière lui et de me placer à ses côtés. Le chauffeur, quand le bruit de la portière fermée lui dit que nous étions en place, partit aussi vite que cela lui fut possible dans cet encombrement. Les glaces de la voiture étaient striées en dedans. Ainsi, du dehors, les glaces lisses et brillantes n'offraient rien de particulier en apparence, rien qui les distinguât de celles des autres voitures, mais il était impossible de voir qui se trouvait derrière. Cependant, à la hauteur des yeux de Martin Huma, les stries des glaces étaient polies et une bande étroite, très claire, permettait de voir au dehors comme par un Judas. C'était la voiture aménagée pour l'usage de Martin Huma et très ingénieusement machinée. Elle contenait bien d'autres particularités. Elle était blindée de plaques d'acier dissimulées sous le cuir et les panneaux de bois et se trouvait, pour ainsi dire, à l'abri des coups de revolver qui parfois la saluaient au cours d'enquêtes excentriques. Dans un coffre devant se trouvait tout un attirail de policiers aussi bien confectionnés que celui des cambrioleurs modernes. Sous les coussins d'arrière, Martin Huma plaçait des effets de déguisement, selon les nécessités du camouflage, quelques vivres pour les longues stations et des boîtes de pharmacie portatives. C'était l'homme de toutes les précautions, on le voit. Une fois en route, Martin Huma, sans rien me dire encore, enleva délicatement le gant de sa main droite. S'approchant de la glace pour le mettre bien en lumière Il l'examina avec attention. « C'est parfait, » dit-il alors. Et il plaça le gant avec des précautions infinies dans la boîte d'où il l'avait sorti tout à l'heure, l'entoura précieusement de coton et remit le tout dans sa poche. Puis, tirant son étui à cigarette, « Maintenant, fumons, » dit-il avec un air de parfait contentement. « Je crois que je n'ai pas perdu tout à fait ma matinée. » J'avais pour principe, pour règle, pour ligne de conduite à suivre, comme Artanuma m'emmenait dans ses recherches, de ne jamais lui poser de questions. Cela lui déplaisait extrêmement. S'il avait quelque chose à me faire connaître, il me le disait sans que j'eusse cette peine de le lui demander. Si j'avais compris, deviné à quoi bon parler, pour me faire donner la confirmation de ce que je savais, Martin-Numa se rendait compte immédiatement de mon état d'esprit, du degré de ma compréhension, si je puis dire ainsi. Quand le moment était venu, à son gré, il achevait de m'éclairer. La voiture roula un temps assez long. Je ne savais pas où nous allions. « Nous arrivons, » me dit Martin-Numa, sans même se donner la peine de s'assurer par son petit judas de verre de l'endroit où nous nous trouvions. « Encore 3 minutes, et nous y serons. » Et se tournant vers moi, « Savez-vous comment je devine, sans me préoccuper du dehors, que nous sommes à peu près arrivés au but de notre course ?»« Ma foi, non. Bien simplement. Je sais le temps qu'il nous faut à peu de choses près pour aller de tel endroit à tel autre, et je compte non sur ma montre pour l'évaluer, le vérifier, mais sur ma cigarette. Oh, comment ! Je mets régulièrement, dans l'état d'esprit où je me trouve ce matin, 10 minutes à fumer ma cigarette. Je viens de finir ma seconde avec 3 minutes d'intervalle. Donc, 23 minutes. Pour venir de la rue Le Pelletier à Passy, où nous nous trouvons, il faut 25 minutes. Encore quelques tours de roue, et nous sommes arrivés. Pas plus difficile. » En effet, quelques secondes après ces dernières paroles, la voiture ralentissait. « Vous voyez, » fit Martin-Numa, « la cigarette vaut tous les chronomètres du monde, quand on sait la fumer. » Il posa la main sur la poignée de la portière, mais au lieu de baisser cette poignée pour ouvrir, il la leva. Presque aussitôt un sifflet se fit entendre dans la voiture. Martin-Numa lâchait la poignée. « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Devant lui, sur le panneau, derrière le chauffeur, un disque blanc apparut. « Bon, » fit le policier, me désignant le signal. « Attention, nous continuons notre promenade. » La voiture reprit son allure. À côté du disque blanc, un autre disque jaune se montra aussitôt. « Quelqu'un de suspect, à droite, » dit Martin-Numa. « Tiens, tiens. » Il colla son visage à la glace triée et regarda par son judas de verre. « Ah, le voilà !» Et il poursuivit, parlant pour moi. « C'est encore un homme brun, à forte moustache noire, qui se tient sur le trottoir, ayant l'air de chercher un numéro de maison. Il porte un manteau de fourrure déjà, ce qui indique qu'en cette saison il a froid. Il ne se contente pas du par-dessus de demi-saison comme nous. C'est un frileux, ou bien un méridional. D'ailleurs, son pied court dénote un Espagnol ou un Italien. Mais la présence de cet homme est peut-être fortuite. C'est un hasard sans conséquence. Pardon, écoutez ce paradoxe. Il n'y a pas de hasard sans conséquence, par ce fait précis que le hasard n'existe pas en réalité. Cependant, dans la vie habituelle, nous ne sommes pas dans la vie habituelle, mais dans une vie toute spéciale, ce qui est bien différent. Assurément. Que deux amis, après une longue absence, se retrouvent tout à coup sur le boulevard, c'est ce que vous pouvez appeler un hasard de la vie actuelle, dont la conséquence est généralement un bon dîner. Mais nous quittons la maison d'un banquier assassiné dans des conditions des plus mystérieuses. Le banquier allait avoir pour gendre un marquis italien. Vous n'allez pas avoir un rapprochement. Nous venons de voir ce marquis italien dans la maison du crime. Et nous trouvons par 2 fois, rue d'Amsterdam, et ici, devant la maison du détective qui court après le coupable, un individu à apparence d'italien. Enquête, aux aguets. Et vous ne voulez pas trouver cette coïncidence tout au moins singulière ? Vous ne voulez pas que ce hasard n'en soit pas un ? Secouant la tête, Martin-Numa ajouta en souriant. « Ah, mon cher Courville, vous me désolez. Voyez mon chauffeur, un collaborateur précieux, qui a des yeux merveilleux, un flair exceptionnel, a jugé immédiatement lui aussi la présence de ce personnage dans cette rue assez inquiétante pour me donner l'alarme. Il a pressé une poire pour siffler et m'avertir, et appuyé sur des boutons électriques placés sur les côtés de son siège, il m'indiquait la nature du danger. Le disque blanc à droite signifie que le péril est de ce côté. Le disque jaune indique un danger de faible importance, quelqu'un ou quelque chose de douteux. Plus sérieux, le disque était vert. Rouge, il annonce le péril. Je n'ai ainsi pas à me montrer. Sans modification apparente, sans que mon homme quitte non seulement ce volant mais son poste d'observation, nous pouvons correspondre par deux petits tubes acoustiques. Je peux ainsi être renseigné très exactement et donner mes ordres. Pour le moment, nous n'avons rien à faire qu'à laisser le chauffeur agir à sa guise. Il nous tirera d'embarras. En effet, au bout de quelques minutes, le sifflet retentit à nouveau et les disques disparurent, puis la voiture s'arrêta. Cette fois, sans hésitation, Martin Huma ouvrit la portière et sauta sur le trottoir. Je le suivis sans souffler mot.